L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 16 mai 1929. Il est un peu plus de 20h à Los Angeles. Ce soir-là, à Hollywood, c'est à l'hôtel Roosevelt qu'il faut être vu. Car c'est là que se tient la première cérémonie des Oscars. Parmi les lauréats, un certain Charlie Chaplin. Pas encore 40 ans, mais déjà récompensé d'une statuette d'honneur pour Le Cirque, sorti l'année précédente. 20h et des poussières, sous les ordres de la grande salle du restaurant Roosevelt. C'est leur H de mon histoire. Cette toute première cérémonie des Oscars n'a rien à voir avec ce qu'elle est devenue de nos jours. Pas de tapis rouge, pas de retransmission à la radio, ni bien entendu à la télévision. Pas de longs discours non plus, ni de remerciements kilométriques. En tout et pour tout, la cérémonie ne durera que 15 minutes. Puis place au champagne et au bon petit plat pour les 250 convives. Il faut dire que le suspense n'était pas à son comble puisque, pour ce coup d'essai, l'annonce des lauréats avait été faite dans la presse au cours des semaines précédentes. Cette première édition couronne le film « Les ailes ». Emil Jannings reçoit l'Oscar du meilleur acteur et Janet Gaynor, celui de la meilleure actrice. Mais qui se souvient encore de ces noms-là aujourd'hui? Il en est un, en revanche, que personne n'a oublié. C'est celui de ce petit bonhomme, 1,65 m, qui d'emblée va rafler une statuette d'honneur pour son film « Le Cirque ». Une récompense qui lui est remise tout à la fois pour sa polyvalence et son génie à jouer, écrire, mettre en scène et produire le cirque, comme le déclare le maître de cérémonie, M. Douglas Fairbanks. Le lauréat s'appelle Charlie Chaplin. Il va fêter ses 40 ans le 25 décembre de cette année-là. Et on est loin, très loin, d'avoir fini d'entendre parler de lui. Jeune encore, quand il reçoit son premier Oscar, deux autres suivront, des décennies plus tard, nous y reviendrons. Charles Spencer Chaplin semble pourtant avoir déjà vécu 1000 vies. Et toutes n'avaient pas pour décor un restaurant de luxe, des verres en cristal et des couverts en argent. Ce serait même plutôt tout le contraire, ce qui rend l'ascension du jeune homme plus époustouflante encore. Si l'on est sûr de la date, le 16 avril 1889, on ne sait rien du lieu qu'il a vu venir au monde, puisque son certificat de naissance ne fut jamais retrouvé. Mais Chaplin, lui, affirmait avec beaucoup d'aplomb qu'il était né dans une maison d'East Street, dans le quartier de Walworth, dans le sud de Londres. Anna, sa mère, et Charles Chaplin Senior, son père, sont tous deux artistes de music hall. Enfin, il faut le dire vite. Elle mène une carrière sans grand succès et lui est chanteur populaire. D'une aventure précédente, Anna a eu un fils, Sidney, que le père Chaplin a reconnu comme le sien. Charlie a donc un grand frère et tout ce petit monde vit, si pas dans une grande misère, à tout le moins dans une réelle précarité. La famille explose quand le futur cinéaste n'a que 4 ans. La vie devient plus difficile encore, d'autant qu'un troisième garçon, Wheeler, issu d'un troisième lit, est venu agrandir le cercle familial. La situation devient à ce point intenable que Charlie est envoyé dans une workhouse, un hospice où étaient recueillis les indigents. Si Anna peut retrouver ses petits après une séparation de 18 mois, cela ne dure guère. Et revoici les 3 garnements confiés à une autre institution. Anna, elle, dont la santé mentale se détériore, est admise dans un asile psychiatrique. Durant les 2 mois qu'elle passe à Ken Hill, Charlie et ses frères sont livrés à eux-mêmes. Une période qu'il n'oubliera jamais et à laquelle, bien des années plus tard, il fera référence dans ses films. Lors de l'une des rechutes d'Anna, après qu'il l'ait conduite au dispensaire, Charlie se retrouve seul. Il vit dans la rue, en attendant le retour de son aîné qui s'est engagé dans la marine. Il a 14 ans, et voilà un an déjà qu'il a quitté les bancs de l'école. Chaplin a déjà, du reste, une belle expérience de la scène, puisqu'il y monte pour la première fois, à l'âge de 5 ans, en remplaçant de sa mère. Ça ne s'invente pas. Il intègre vers 10 ans la troupe des Het Lancashire Lads. Il danse plutôt bien, mais il n'aime pas ça. Il rêve de comédie et s'inscrit dans une agence artistique du West End. Ses premiers rôles, il les trouve dans des productions médiocres. Si les spectacles eux-mêmes sont boudés par les critiques, Chaplin, par contre, par ses talents comiques, attire le regard. On lui confie des rôles de plus en plus importants, notamment dans le spectacle pour enfants « Casey's Circus », où il peut faire montre de tout son talent dans l'art du burlesque. À 18 ans, à la force de son travail et grâce à son génie, il possède tous les acquis d'un comédien accompli. Par l'entremise de son frère Sidney, Chaplin se fait engager à l'essai dans la troupe comique du célèbre Fred Carnot, qui ne sont pourtant pas totalement convaincus. Selon ses mots, Chaplin n'est qu'un enfant à l'air renfrogné, pâle et chétif, qui semble bien trop timide pour faire quoi que ce soit de bien au théâtre. Il doit pourtant se rendre à l'évidence après la première prestation du jeune acteur sur une scène londonienne. Le public l'adore et sa présence est indéniable. C'est ce qui vaut à Charlie de faire ses débuts aux États-Unis en 1910. Là, il est comme un poisson dans l'eau. Tout est démesuré et il aime ça. Si bien que quand il rentre en Angleterre, 21 mois plus tard, il a le blues, notre Charlot en devenir. Et une seule hâte, y retourner. Et ça tombe bien, une nouvelle tournée débute en octobre qui lui permettra d'explorer un monde encore inconnu pour lui jusque-là, celui du cinéma. La New York Motion Picture Company lui propose de remplacer Fred Mess, la star vieillissante des productions Keystone. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, puisqu'il considère leur film comme un peu lourdingue, dirait-on aujourd'hui, eh bien elle accepte. Et le voici à Los Angeles pour la première fois en 1913. Dans 16 ans, Charlie Chaplin va y recevoir un Oscar d'honneur. Comment pourrait-il s'en douter ? La cérémonie n'existe pas encore. Dans 16 ans, il atteindra l'heure H de cette histoire. Mais n'anticipons pas, car avant de dîner en compagnie de 250 convives dans un hôtel prestigieux, eh bien, il reste du chemin à parcourir. D'autant que, s'il semblait susciter l'engouement, on ne lui confie aucun rôle avant février de l'année qui suit. Qu'importe. Avide de découvrir un nouveau métier, Chaplin traîne sur les plateaux et observe le travail des réalisateurs, la mise en scène, le jeu des acteurs. En 1914, enfin, il se glisse dans la peau d'un dandy en haute forme et grosse moustache dans « Pour gagner sa vie ». Le film, un court-métrage, ne lui plaît pas, mais lui donne l'idée de peaufiner son personnage de vagabond qui va faire de lui une star planétaire. Dans son autobiographie, il explique comment est né Charlot, que le public découvre dans « Charlot est content de lui ». « Je voulais que tout soit une contradiction », explique-t-il. Le pantalon ample, la veste étriquée, le chapeau étroit et les chaussures larges. J'ai ajouté une petite moustache qui, selon moi, me vieillirait sans affecter mon expression. Je n'avais aucune idée du personnage, mais dès que j'étais habillé, les vêtements et le maquillage me faisaient sentir qui il était. J'ai commencé à le connaître et, quand je suis entré sur le plateau, il était entièrement né. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, simple. Chaplin, méticuleux et perfectionniste à l'extrême, ne laisse rien au hasard et, film après film, apporte de petites modifications à ce personnage de vagabond. Puisqu'il a l'air un peu malveillant, rustre et grossier, comme on le lui fait remarquer chez Keystone, il arrondit les angles et donne à Charlot plus de douceur, de candeur, pour s'approcher d'un Pierrot un peu lunaire, mais toujours prompt à faire des bêtises. Le succès ne cessant de croître, le public l'adore. Chaplin ose demander une petite augmentation. C'est non chez Keystone. Et ce sera oui chez Essanay Studio, qui lui offre un salaire hebdomadaire de 1 250 $, soit près de 40 000 euros de nos jours. Et tant qu'on y est, tiens, allez, on ajoute une prime de 10 000 $ d'embauche. Le gamin né dans la pauvreté, qui a dormi dans la rue et fréquenté les hospices à Londres, peut désormais voir venir. S'il travaille sans relâche, il peut aussi à présent s'offrir le luxe de tourner moins de films, mais de les peaufiner davantage. Charlot Félanos, Charlot boxeur, Charlot garçon de banque, le vagabond. Le public en redemande, et Chaplin lui en donne. Si bien que des produits à son effigie commencent à fleurir dans les magasins. Il apparaît aussi dans des bandes dessinées, des chansons. Redoutable homme d'affaires de 26 ans, il n'entend pas laisser à d'autres les fruits de cette gloire. Et quand il change de maison de production en 1916, non seulement il obtient un salaire annuel de 670 000 $, ce qui fait, tenez-vous bien, près de 19 millions d'euros actuels, mais aussi un studio rien qu'à lui. Et d'où sortiront des films en pagaille? Ah, il faut bien rentabiliser le salaire de l'une des personnes les mieux payées au monde. Sur le vieux continent, au même moment, la guerre fait rage. Et les détracteurs de Charlot ne manquent pas de souligner que, dans la fleur de l'âge, il n'est pas parti la fleur au fusil. Ce à quoi l'ambassade britannique aux États-Unis répond officiellement que Chaplin est bien plus utile à la Grande-Bretagne en gagnant de l'argent et en achetant des obligations de guerre que dans les tranchées. En 1918, toutefois, alors qu'il a une nouvelle fois changé de studio et fait grimper son salaire, il réalise une tournée d'un mois à travers les États-Unis pour lever des fonds en faveur des Alliés. Il se met également en scène dans « Charlot soldat », où on le voit dans les tranchées. Attention danger, il ne fait pas bon rire de la guerre. Pourtant, le film rencontre un grand succès lors de sa sortie en salle, un mois avant la signature de l'armistice. Tout semble donc sourire au petit vagabond moustachu. Côté cœur, Chaplin, qui raffole des jolies filles, se marie pour la première fois. L'élu s'appelle Mildred Harris. Elle est actrice et elle a 17 ans. Oui, mais voilà. Le temps presse car Mildred est enceinte. Du coup, le mariage a lieu dans la plus grande discrétion à Los Angeles, en septembre 1918. Sauf que Mildred a, en quelque sorte, piégé son partenaire puisqu'elle n'attend pas d'enfant. Elle sera bel et bien enceinte, peu de temps plus tard, et donnera naissance à un petit garçon. Norman Spencer Chaplin, qui ne vivra que 3 jours. En avril 1920, le couple se sépare, au grand soulagement de l'acteur. Mais ce bébé, mal formé et sitôt disparu, laisse des traces dans le cœur et l'âme de Chaplin, qui travaille sur le scénario de Kid, un film qui voit Charlot devenir le tuteur d'un gamin. Si l'on rit encore, on pleure aussi, désormais en regardant un film de Charlie Chaplin. Et cela fonctionne au-delà de l'imaginable. Le Kid devient un succès mondial, distribué dans plus de 50 pays. La décennie qui s'ouvre, les années 20, sera incroyablement féconde pour Chaplin. Désormais producteur indépendant de ses films, il peut littéralement décider de tout, ce qu'il fait sans tarder, en se lançant dans « La ruée vers l'or », dans tous les sens du terme. Le tournage démarre en 1924 dans les montagnes du Nevada, mais tout est compliqué. Il y a beaucoup de figurants à gérer, la météo n'est pas toujours du bon côté et Chaplin veut y introduire des effets spéciaux. Oh, on est loin de Star Wars, hein, mais l'homme a des idées. La ruée vers l'or nécessitera 15 mois de tournage, au terme desquels Chaplin dira qu'il aimerait qu'on se souvienne de lui grâce à ce film. Un vœu qui se réalisera sans doute. Qui ne se souvient pas de la danse des petits pains ou de Charlot au fond de sa misère noire en train de manger ses lacets? Amoureux des jolies et jeunes filles, Chaplin fait, tandis qu'il tourne La ruée vers l'or, la rencontre de celle qui deviendra sa deuxième épouse, Lita Gray. Elle doit montrer son joli minois de 16 ans dans le film, mais hélas, elle se retrouve enceinte. Charlie, lui, a 35 ans et cette différence d'âge est mal acceptée. Oh, c'est bien simple. Selon la loi californienne, il s'agit de viol sur mineur. Charlie Chaplin va donc épouser cette toute jeune fille au Mexique en novembre 1924. Ils auront deux enfants, Charles Chaplin Jr. en 1925 et Sidney Earl Chaplin en 1926. Mais les époux ne s'aiment pas, ou plutôt ne s'aiment plus. Et la procédure de divorce est assez sordide. Elle l'accuse d'infidélité, de violence et, en sus, d'avoir des désirs sexuels pervers. Voilà qui fait une très mauvaise publicité aux gentils vagabonds. Les ligues de moralité se déchaînent aux États-Unis. Elles exigent que les films de Chaplin soient retirés des écrans.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire de Charlot, ce vagabond qui a séduit la terre entière et qui, le 16 mai 1929, lors de la toute première cérémonie des Oscars, va recevoir une statuette d'honneur pour son film Le Cirque. Nous sommes en 1926, soit 3 ans avant que sonne l'heure H de notre histoire. Charlie Chaplin tente de s'extirper d'un deuxième mariage malheureux. Le tournage du film Le Cirque est suspendu, le temps que la procédure de divorce suive son cours. Les deux anciens amoureux, qui aujourd'hui se détestent, tentent de trouver un accord à l'amiable. Les avocats du réalisateur et acteur finissent par accepter de payer 600 000 dollars, soit près de 9,5 millions d'euros de nos jours, pour que leur lien se délie. Ici encore, Chaplin fait figure de précurseur. Jamais divorce n'avait coûté aussi cher. Le Cirque sort enfin en janvier 1928. Un peu plus d'un an plus tard, Chaplin, dont la vie n'a été jusqu'ici qu'un incroyable ascenseur émotionnel, reçoit son premier Oscar. Et quelle récompense! Souvenez-vous des mots de Douglas Fairbanks. On souligne sa polyvalence et son génie à jouer, écrire, mettre en scène et produire le cirque. Mais Chaplin, évidemment, ne va pas s'arrêter là. 2 ans plus tôt, en 1927, une véritable révolution s'est opérée dans le cinéma. Jusqu'ici muet, il est désormais parlant. The Jazz Singer d'Alan Crosland a bouleversé les codes, et notamment ceux de Chaplin, dont on n'a jamais entendu la voix. Mais Charlot n'y croit pas. Pour lui, on peut dire bien plus sans le son qu'avec, et on s'exporte mieux. Alors, dans les années qui suivent, il continuera à s'accrocher aux histoires sans parole. C'est d'ailleurs toujours en muet qu'il tourne « Les Lumières de la ville », un autre de ses blockbusters, comme on le dirait aujourd'hui. Il y raconte l'histoire incroyablement émouvante de Charlot qui fait tout ce qu'il peut pour tenter de redonner la vue à une jeune vendeuse de fleurs rencontrée dans la rue. Pari gagné. Une fois encore, pour Chaplin qui remplit les salles. Un critique écrit « Personne d'autre que Charlie Chaplin n'aurait pu le faire. Il est le seul à avoir ce quelque chose d'étrange appelé « attrait de l'audience » en quantité suffisante pour défier le penchant populaire pour les films qui parlent. » Malgré le succès, Chaplin est anxieux et pas bête. Il sait que le parlant est en train de prendre le pas sur le muet. Mais alors que faire? Son autre angoisse? Être démodé. Alors il réfléchit. Et quoi de mieux pour réfléchir que de prendre de la distance, beaucoup de distance. En 1931, le voilà parti dans un périple qui le mène de la France à la Suisse, puis aux pays d'Europe de l'Est et enfin au Japon. Nous sommes en 1932 et Charlie Chaplin va être la cible d'un complot avorté qui aurait pu lui coûter la vie. Le 15 mai 1932, des officiers nationalistes japonais se lancent dans un coup d'État. Ils assassinent leur premier ministre dans sa résidence officielle. Mais leur but initial n'était pas que celui-là. Ils voulaient aussi la peau de Charlie Chaplin, espérant ainsi déclencher une guerre avec les États-Unis. Sauf que ce jour-là, notre Charlot assiste à un combat de sumo avec le fils du Premier ministre. Ce qui leur vaut à tous les deux la vie sauve. Comme souvent dans sa vie, c'est encore une femme qui va lui apporter le réconfort dont il a bien besoin après ces tragiques événements. Elle s'appelle Paulette Godard. Elle est actrice et a 22 ans. Cette rencontre, additionnée à la prise de conscience amenée par ses voyages, pousse le réalisateur à s'intéresser de plus en plus aux grandes questions qui secouent le monde. Notamment la percée d'un capitalisme toujours plus flamboyant. Et si les hommes étaient remplacés par des machines Voilà ce qui préoccupe Chaplin qui se lance dans l'écriture des temps modernes, qui va devenir le chef-d'œuvre que l'on connaît. Toujours fidèle au muet, il s'offre pour la première fois le luxe d'y chanter une petite chanson dans une langue imaginaire qui tient tout du charabia. Un détail ? Peut-être. Mais c'est la première fois que l'on entend sa voix. Est-ce la raison du succès mitigé des temps modernes ? Certains pensent que c'est plutôt la prise de position trop politique qui est en cause. Dans la plus grande discrétion, lui et Paulette se sont mariés en 1936, à Canton, en Chine. Mais une fois encore, la belle histoire se termine par un divorce. En 1942, pour différends irréconciliables, les époux se séparent. Leur complicité dans les temps modernes n'aura pas suffi. Tandis qu'en Europe, les nationalistes prennent le pouvoir, que la Seconde Guerre mondiale devient plus qu'une vilaine possibilité, Chaplin s'interroge. Il s'inquiète. Pendant 2 ans, il va travailler au scénario du Dictateur, où l'histoire de ce petit barbier juif et amnésique qui présente d'étranges ressemblances avec Hitler, rebaptisé Adénoïde Hinkel. Les observateurs de l'époque ne manquent pas de remarquer les étonnantes similitudes entre le Führer et le comédien. Ils sont nés à 4 jours d'écart, Chaplin le 16 avril et Hitler le 20, de la même année, 1889, et le second porte la même petite moustache que Charlot. Ce film, qui sort en 1940, marque le passage de Chaplin au parlant. C'est un vrai tournant et une vraie prise de risque pour le comédien réalisateur. Et ce sera un succès. En dépit des oiseaux de mauvais augure qui juraient qu'il ne devait pas s'aventurer sur un terrain aussi politique. Le Dictateur sera nommé 5 fois lors de la 13e cérémonie des Oscars. Mais il n'en remportera aucun. Alors que le film vient de sortir et que la guerre fait rage de l'autre côté de l'Atlantique, c'est au cœur d'une autre tourmente que Charlie Chaplin va plonger au début des années 40. Sa nouvelle amoureuse, Joan Barry, semble mentalement instable. Leur relation connaît des hauts et des bas et la jeune femme, elle aussi aspirante actrice, prétend être enceinte de Chaplin. C'est lorsque cette dernière entame une procédure de reconnaissance en paternité que John Edgar Hoover, le directeur du FBI, vient s'en mêler. Il a Chaplin dans son viseur depuis quelque temps déjà et l'affaire Joan Barry tombe à point nommé. Nuire à la réputation d'une aussi grande star n'aura jamais été aussi facile. Charlie Chaplin est notamment inculpé d'avoir violé le Mann Act. Qu'est-ce que le Mann Act, me direz-vous ? C'est une loi fédérale américaine qui a donc autorité dans tout le pays et qui vise à interdire le transport de femmes entre États. Comprenez qu'en passant la frontière entre 2 États, même s'il s'agit de le faire avec son amoureuse, le trafic est avéré car l'on estime qu'il y a là transport de femmes à des fins sexuelles. Absurde ? Bien sûr. Bien sûr, mais le mal est fait et la réputation de Charlot est sérieusement écornée. Quand Joan Barry accouche d'une petite fille en octobre 1944, on déclare que Chaplin est le père de l'enfant. Et ce, en dépit du bon sens, puisque des tests sanguins prouvent que cela ne pouvait être le cas. Il va pourtant devoir lui verser une pension alimentaire jusqu'à ses 21 ans. C'est au cœur de ce scandale que vient s'en greffer un autre, que les écotières des rubriques People vont commenter sans relâche. Le 16 juin 1943, l'acteur annonce ses fiançailles avec sa nouvelle protégée, Una O'Neill. Il a 54 ans et elle, 18. Mais qu'importe. Il affirme haut et fort qu'il a rencontré l'amour de sa vie. Et l'avenir ne le fera pas mentir. Ils formeront un couple heureux jusqu'à la mort de Chaplin, en 1977, et auront 8 enfants. Si côté cœur, tout va pour le mieux, sur le plan professionnel, c'est pas la grande forme. Chaplin travaille sur son prochain long-métrage, Monsieur Verdoux, dont l'histoire n'est pas sans rappeler celle de Landru. Monsieur Verdoux est un homme qui séduit de riches veuves avant de les assassiner et de récupérer le magot. Mais les procès, les scandales entourant sa vie privée ont fait une mauvaise pub à Chaplin, qui, de plus, fait disparaître le personnage de Charlot. C'en est trop pour le public américain qui va bouder ce monsieur Verdoux, dont Chaplin écrit pourtant dans ses mémoires que c'est le plus brillant et le plus intelligent des films qu'il a réalisés. En pleine chasse aux sorcières, John Edgar Hoover, qui ne lâche pas le morceau, revient à la charge avec des accusations de communisme. Un procès est officiellement ouvert en 1947. Chaplin a beau nier et réaffirmer qu'il n'est qu'un pacifiste, on se déchaîne contre lui. Le représentant du Mississippi devant le Congrès va jusqu'à affirmer que sa vie à Hollywood est nuisible au tissu moral des États-Unis et que s'il est expulsé, je cite, « ses films répugnants » pourront être gardés à l'écart des yeux de la jeunesse américaine. Nous devons l'expulser et nous en débarrasser une bonne fois pour toutes. C'est dans ce contexte, en rien tendu, que Chaplin s'attaque à son prochain projet. Les Feux de la Rampe, film hautement autobiographique, il évoque notamment la triste vie d'artiste de ses parents et son enfance. L'histoire se déroule à Londres, à l'époque édouardienne, et c'est donc naturellement là que le réalisateur décide d'organiser l'avant-première. Nous sommes en septembre 1952 quand il embarque, avec sa famille, sur le Queen Elizabeth. Pas dupe de ce qui se trame, il affirme se douter qu'il ne reviendra pas aux États-Unis. Et de fait, un jour seulement après qu'il ait quitté le territoire américain, on lui fait savoir que son visa est révoqué. On apprendra bien des années plus tard que le procureur n'avait pas suffisamment d'éléments pour retirer son visa à Chaplin. Lui, il semble avoir déjà fait son deuil des États-Unis et affirme toujours dans ses mémoires « Que je revienne ou non dans ce triste pays avait peu d'importance pour moi. J'aurais voulu leur dire que plutôt je serais débarrassé de cette atmosphère haineuse, mieux je serais, que j'étais fatigué des insultes et de l'arrogance morale de l'Amérique. » Évidemment, Les Feux de la Rampe connaît un certain succès en Europe et, évidemment, il est boycotté aux États-Unis. C'est Una qui fera le voyage dans l'autre sens. Elle soldera les comptes, vendra studios et propriétés avant de revenir sur le vieux continent et de s'installer en Suisse. Plus précisément, à Corsier-sur-Vevey, au manoir de Ban, sur lequel Chaplin jette son dévolu en 1953. Il faudra attendre de longues années et le maccartisme enterré pour que le petit vagabond retrouve sa place dans le cœur des cinéphiles. Une rétrospective des films de Charlot est organisée à New York. Tout en travaillant à la sonorisation de ses chefs-d'œuvre, il écrit également ses mémoires. Ce sera une somme de 500 pages qui parle peu de ses films, mais beaucoup de son enfance et de sa vie privée mouvementée. Ce sera un succès. Le dernier film de Charles Spencer Chaplin sera « La Comtesse de Hong Kong » en 1967, en couleur s'il vous plaît. Avec au générique, Sophia Loren et Marlon Brando. Chaplin se contentant, sous forme de clin d'œil, de jouer les utilités dans un petit rôle de steward. Mais cette histoire de passagère clandestine qui, à bord d'un bateau, tombe sous le charme d'un ambassadeur américain fait un flop. Du reste, depuis le milieu des années 50, Chaplin a des problèmes de santé. Plusieurs AVC mineurs l'ont contraint à lever le pied et il profite de sa grande famille dans son coin de paradis suisse. Dans les années 70, c'est donc un homme déjà très âgé et dont la santé ne cesse de se fragiliser qui reçoit une pluie de récompenses. La Légion d'honneur lui est remise à Cannes. Un lion d'or vient couronner sa carrière. En 1972, il reçoit un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa filmographie. Ce sera pour lui l'occasion de retourner aux États-Unis pour la première fois en 20 ans. Pendant 12 longues minutes, la salle va lui offrir une standing ovation. En 1975, il est fait chevalier par la reine Elisabeth, lui le petit gamin des rues de Londres. De nouveaux problèmes de santé rendent son élocution de plus en plus difficile et le voici cloué sur un fauteuil roulant. Cet énorme petit bonhomme, ce monstre de comédie et de tendresse, s'éteindra des suites d'un nouvel AVC dans son sommeil, le matin du 25 décembre 1977. Après une courte cérémonie anglicane, il sera inhumé, deux jours plus tard, dans le petit cimetière de Corsier-sur-Vevey. Mais la rocambolesque histoire de Charlie Chaplin ne s'arrête pas à sa mort, bien au contraire.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous évoquons la vie de Charlie Chaplin, ses succès et son Oscar d'honneur lors de la toute première cérémonie en 1929. Mais laissez-moi aussi vous conter l'incroyable histoire que Chaplin va vivre après sa mort. Accrochez-vous. Charlie Chaplin repose depuis un peu plus de deux mois dans le petit cimetière suisse de Corsier-sur-Vevey, à quelques encablures du lac Léman, quand va se produire une histoire insensée, que même le plus fou des scénaristes n'aurait jamais osé imaginer. Jugez plutôt. Roman Wardas, alors 24 ans. Ce réfugié polonais qui vit à Lausanne tombe sur un article de journal qui raconte comment un homme a déterré un cadavre et réclamé à sa famille une rançon pour sa restitution. L'idée est macabre, certes, mais elle fait son petit bonhomme de chemin dans la tête de Wardas. Il appelle une de ses connaissances, mécanicien comme lui, et réfugié comme lui. C'est Gancho Ganev, d'origine bulgare. Ensemble, les deux hommes décident d'aller voler le cercueil de Charlie Chaplin dans la nuit du 1er au 2 mars 1978. Les voici donc au cimetière. Le break de Ganev est garé tout à côté. Ouvrir la tombe et exhumer le cercueil leur prend 2 heures. Il fait toujours nuit quand ils arrivent aux abords d'un champ à Neuville, près du lac de Genève. Et à 2 kilomètres à peine du manoir de Ban, où vivent les Chaplin. Ils avisent un champ de maïs, ils creusent une tombe de fortune et ils déposent la dépouille de Charlot. Vous l'imaginez, l'affaire fait évidemment les gros titres de la presse dès le lendemain et chacun y va de sa petite supputation. Et si c'était des fans de Charlot qui l'avaient capturé? On évoque aussi les Brigades Rouges et la bande à Bader des terroristes qui sévissent alors. À moins que ce ne soient des nationalistes anglais qui tenaient à ce que l'acteur soit enterré dans le pays où il était né. Wardas met fin au suspense quelques jours plus tard quand il téléphone au manoir pour informer la famille qu'il rendra le corps contre monnaie sonnante et trébuchante, ou plutôt contre quelques belles liasses de billets. Il se présente sous le nom de Monsieur Rocher et c'est Una qui prend la communication. Wardas lui demande 600 000 francs suisses, ce qui équivaut aujourd'hui à 2 millions d'euros. Mais la veuve de Charlot ne s'en laisse pas compter et envoie promener le bandit à la petite semaine. C'est à peine si elle ne lui rit pas au nez. Mais M. Rocher n'en démord pas. Il multiplie les coups de fil, envoie des photos du cercueil et menace même de tuer toute la famille si elle n'accède pas à sa demande. Comment ne se fait-il pas attraper, me direz-vous? Rappelons que nous sommes en 1978, que les GSM n'existent pas, la géolocalisation non plus et le bornage encore moins. Toutefois, la police a évidemment mis la ligne des Chaplin sur écoute et surveille toute une série de cabines téléphoniques de la région. Dorénavant, c'est Géraldine, l'une des filles de Chaplin, âgée de 33 ans, qui prend le relais dans les négociations avec ces deux drôles de ravisseurs. Elle parvient à diviser par 4 le prix de la restitution du corps, puisque les comparses sont aux abois. Et elle oblige Wardas à multiplier les appels. Cette fois, ça y est. On sait que les coups de fil sont passés depuis Lausanne. La police va alors demander à Géraldine de jouer au bluff. Bon, après tout, elle est comédienne, comme papa, et de faire croire à un accord. Naïf, Wardas y croit et l'informe que c'est lui qui fixe le jour et l'heure où il appellera. En matière de grand banditisme, on a fait plus finot. Le voici donc en route, le 16 mai à 9h30, pour passer son appel. Pas de chance pour lui. C'est l'une des 240 cabines qui avaient été placées sur écoute. Il ne reste donc à la police qu'à le cueillir. À peine a-t-il raccroché. Arrêté à Lausanne, Wardas ne tarde pas à avouer. Il donne également le nom de son complice, qui, à son tour, se fait coffrer. Reste maintenant à retrouver le corps. Et ce ne sera pas de la petite bière, si vous me passez l'expression. Car là commence une séquence qui pourrait être comique, digne d'un film de Chaplin, tiens, s'il ne s'agissait pas de la dépouille d'un homme. D'ailleurs, Xavier Beauvois s'en inspirera en 2014 pour son film « La rançon de la gloire » avec Benoît Poulvorde et Roche Dizem dans les rôles principaux. Mais revenons à Lausanne. La nuit venue, pour éviter les paparazzi et les curieux, la police emmène nos deux pieds nickelés à bord d'un combi. Les deux hommes indiquent l'endroit où ils ont sommairement enterré le génie du 7e art. Hélas, quand ils ont mis le corps en terre, le jour se levait. Mais là au milieu de la nuit, impossible pour Wardas et Ganev de se souvenir avec précision où ils ont creusé. C'est donc armé de pioches, de pelles et de détecteurs de métaux qu'une dizaine de policiers se mettent à ratisser le champ de maïs. À l'allure de la lune, ils cherchent et cherchent encore. Et puis ils finissent par le retrouver. Le cercueil est gorgé d'eau. Le corps en décomposition et le tout dans une tombe de fortune. Roman Wardas sera condamné à 4 ans de prison ferme. Son complice, qui avait joué un rôle moins important, à 18 mois avec sursis. Le cerveau de l'affaire, si on peut qualifier ainsi un tel fiasco, voulait juste gagner de l'argent facilement pour s'acheter le garage dont il rêvait. En guise de mur, il découvrira ceux de la prison. Lors du procès, Ganef, qui ne semble pas tout à fait conscient de la gravité des faits commis, avouera « Je n'étais pas particulièrement mal à l'aise avec le cercueil. À la base, je voulais l'enterrer plus profondément, mais il pleuvait et la terre devenait trop lourde. Et encore, ça ne me dérangeait pas de déterrer le cercueil. La mort n'est pas si importante là d'où je viens. » Quant à Wardas, dans ses petits souliers, face à une salle d'audience bondée, il provoquera les rires de l'assistance. L'avocat de la famille Chaplin, demandant à parler à M. Rocher, celui-ci se lèvera, penaud, avant de lui adresser un « bonjour » très poli. Il enverra ensuite une lettre d'excuse à la famille Chaplin. Una lui accordera son pardon. Eugène, le fils aîné de Sir Charles, aura même ces mots assez incroyables. Le corps se trouvait dans un endroit réellement magnifique, un champ de maïs, au point, je l'avoue, que nous n'étions pas loin de regretter qu'on l'ait retrouvé, tant il était bien là-bas. Mais le corps de Charlie Chaplin retrouvera sa place dans le cimetière de Corcier-sur-Vevey, 6 jours après qu'on l'ait retrouvé, après un étonnant voyage de plus de 2 mois. Prudente, la famille ne se fera plus avoir. Désormais, Charlot repose sous une épaisse dalle de béton de 2 mètres d'épaisseur. Una est à ses côtés depuis le 27 septembre 1991. Et depuis 2016, le manoir de Ban, ce lieu où Charlot et sa famille vécurent des jours heureux, est devenu un musée consacré à Charlie Chaplin et à son œuvre. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Jacqueline Vanderbeek.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.